Bonjour, bienvenue sur Annie Music, c'est Jean David pour un nouveau numéro des Bulbes dans la tête. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voyage avec moi, très loin, dans un monde qu'on a appris à connaître parce qu'il a été adapté au cinéma, un monde fantastique, un monde imaginaire, un monde rempli de hobbits, à l'occasion de la sortie aux éditions Le Pré au Clair de l'encyclopédie du Hobbit. Avec moi, pour en parler, j'ai la chance de recevoir leurs auteurs, une partie en tout cas des auteurs de l'ouvrage. Je veux remercier d'abord de leur présence Coralie Poteau. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Annie Music et merci pour votre présence. Damien Bador. Non, pas du tout, je me bouge. Vivien
Stoker.
Mais bon, il fait partie comme Damien Bador. Il fait aussi partie. Quand même. Et Xavier Sanchez qui est l'illustrateur.
Bonjour.
Bonjour à vous trois et merci de participer à Annie Music. Alors, première question commune, qu'est-ce qui vous a d'abord fasciné dans Hobbit pour en faire un ouvrage? Je tiens à vous signaler que le titre c'est l'encyclopédie du Hobbit. Alors pourquoi?
Waouh. C'est pas forcément une question de facile de savoir pourquoi on aime Tolkien. Voilà, enfin.
C'est plus de la passion que de la fascination.
Oui, alors là, oui, c'est pas ça. Enfin, ça. Je pense que tous autour de la table, on aime Tolkien depuis des années et des années. Et finalement, en faire un livre, c'est arrivé au terme d'un.
Ça allait de soi.
Au bout d'un moment, oui, voilà, ça allait de soi. C'est un ouvrage qui n'existait pas en français, qui n'a pas d'équivalent non plus en anglais, et qu'à un moment, on s'est dit à plusieurs que oui, ça manquait peut-être un livre grand public sur un livre précis de Tolkien, parce que si on commence à se dire on va faire un livre grand public sur tout Tolkien, on n'a pas fini. Donc là on s'est dit Le Hobbit c'est un livre relativement court, donc il y a moyen d'en faire
relativement court. J'insiste auprès de mes auditeurs, je vous conseille quand même d'aller en librairie d'abord pour l'acheter parce qu'il est super bien fait. C'est plus à mon sens qu'une encyclopédie, c'est vraiment c'est une bible du Hobbit, mais qui est pas très, c'est pas léger quand même.
Le livre de Tolkien est très court. Enfin, très court. Le livre de Tolkien est court. Par rapport au Seigneur des Anneaux, le Hobbit est court. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup de choses à dire rien que sur le Hobbit. Donc, faut imaginer tout ce qu'on pourrait avoir à dire sur le Seigneur des Anneaux ou Silmarillion ou le reste de l'œuvre de Tolkien. On a commencé petit.
C'était l'intérêt, en fait. Le Hobbit est plus court, beaucoup moins connu aussi malgré les films récents et le prochain qui va sortir, mais justement l'intérêt était d'avoir un ouvrage court à pouvoir développer relativement aisément sans aller dans trop de détails aussi.
C'est une bonne façon d'introduire en plus le Seigneur des Anneaux, puisque
exactement
beaucoup de choses sont développées dans le Seigneur des Anneaux ensuite.
Il y a beaucoup, voilà, le Hobbit, il y a beaucoup d'allusions au reste de la Terre du Milieu sans être complètement forcément impliqué dedans au point de devoir expliquer des centaines et des centaines de personnages. Donc c'est une très bonne porte ouverte pour le reste de l'œuvre de Tolkien. Et donc ça, c'était vraiment aller de soi de partir de l'œuvre du Hobbit.
Alors je le disais tout à l'heure en intro, l'œuvre de Tolkien a été vulgarisée en tout cas pour le très très grand public qui ne le connaissait pas grâce au film ciné, le Hobbit. Moi je voudrais savoir, ce mot de Hobbit vient d'où? Est-ce que un de vous le sait? Est-ce que ça vient d'où? Est-ce que d'un jour ou l'autre on a connu Hobbit, Bilbo le Hobbit?
Oui,
il me semble. Il vient d'où?
Justement, la légende urbaine, on ne sait pas. Je pense que la part de vérité dedans. Tolkien raconte lui-même que il était en train de corriger des épreuves d'étudiants, des copies d'étudiants, et en tombant sur une copie vierge, en fait, il est allé, son esprit est allé tout seul chercher une phrase. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Et finalement, sur le coup, le mot hobbit était une pure invention. Maintenant, il y a quand même eu des études de la part de spécialistes de Tolkien qui sont allés chercher d'éventuelles inspirations. Et le mot hobbit, effectivement, fait partie d'une liste. Connu en Angleterre comme sous le titre les Denham Tracks, qui sont une liste, qui est une liste en fait de d'esprits en fait de la nature, et le mot hobbit existe dans cette liste au milieu de une diversité d'autres types d'esprits, genre farfadet, lutin, etc. Et donc potentiellement ça pourrait venir de là, mais il n'y a aucune certitude. Et chez Tolkien, c'est souvent de la pure invention sur le moment et explicable a posteriori.
Alors si je vous suis bien, ça viendrait plutôt de Grande-Bretagne.
De toute manière, en fait, toute son invention est basée là-dessus, puisque bon, il est anglais. Et toute sa mythologie, tout son légendaire est basé sur l'idée simple qu'il manque il manquait une mythologie propre à cette Angleterre. Et donc il a commencé à écrire là-dessus. Et donc oui, c'est purement anglais et fait pour être purement anglais.
Donc nous, pauvres petits Français que nous sommes, nous avons peu de chance de rencontrer des hobbits quelque part, ou pas du tout. Est-ce qu'ils ont immigré chez nous?
Est-ce qu'ils ont... C'est juste le nom qui change. Hein, non. C'est un folklore en français qui est très riche.
Effectivement, oui.
J'allais enchaîner. À différence des folklores purement historiques, comme on a l'occasion de les voir, il faut bien se rendre compte que c'est quand même de l'invention. C'est-à-dire qu'il l'a fait pour être mythologique, mais c'est pas censé rentrer dans la mythologie. Si je peux m'expliquer comme ça, c'est un peu.
Ce n'est pas de la véritable mythologie,
voilà,
comme on peut l'entendre, comme on l'apprend en tout cas à l'école. Pour revenir à l'ouvrage, l'encyclopédie du Hobbit, comment vous avez travaillé? Parce que le monde, cet univers du Hobbit, en tout cas le peu que je connais, je ne suis pas un spécialiste, loin de là, je ne suis pas à votre niveau. Comment avez-vous travaillé? Parce que à travers plusieurs chapitres, vraiment, c'est... Vous disséquez presque ce monde de Hobbit.
Oui, en fait, ça s'est un peu passé comme ça. C'est-à-dire qu'on a établi d'abord la liste des articles. Et on avait évidemment les grandes idées, les grands personnages et autres. Et après, je pense qu'on a tous fait une relecture de notre côté. Et enfin, moi, je sais que j'ai repris le livre. Et page par page, j'ai noté sur une feuille tout ce qu'il fallait expliquer. Et finalement, on est tous arrivés avec nos listes d'articles et qui se recoupaient en grande partie. Et après, on a décidé, certains personnages secondaires, de les regrouper dans un article plus général. Et on a fait aussi une partie qui est peut-être la moins habituelle dans ce type d'ouvrage, sur les sources d'inspiration et sur les catastrophes, les notions littéraires que Tolkien avait pu mettre dans son livre. Donc pas que de l'histoire et des personnages. Et cette partie-là, donc on a aussi beaucoup travaillé parce que moins souvent traité. Une fois qu'on a établi la liste des articles, on s'est réparti le travail et on a décidé.
Il faut bien voir que on est quatre auteurs sur la couverture, mais il y a derrière une douzaine, quinzaine de personnes qui ont travaillé à la rédaction des articles. Et on a l'habitude en fait de travailler tous ensemble, c'est-à-dire que on est réunis autour d'une communauté assez.
Une communauté, j'aime beaucoup le terme.
Non, mais c'est le terme.
La communauté assez... de Tolkien.
Le terme est assez. Est valable. Mmh. Et donc on connaît assez bien les personnes qui ont travaillé et on sait comment elles travaillent. Donc ça s'est réparti un peu comme ça. Et puis pour le fond des articles, on n'a rien inventé, c'est-à-dire que. On connaît bien l'œuvre de Tolkien, donc pour l'aspect purement de l'histoire, ça a été juste des rappels de ce que nous on connaît sur la lecture et tout. Et après, sur comme disait Coralie, sur les inspirations, là ça a été plus de la recherche dans de la littérature que nous on appelle la littérature secondaire, c'est-à-dire tout ce que les universitaires spécialistes de Tolkien ont déjà écrit. Alors on a fait appel à nos bibliothèques personnelles et on est allé rechercher les petits détails et les petites anecdotes importantes. Dans la première version du Hobbit, Gandalf, c'était un nain. Et le magicien ne s'appelait pas Gandalf à l'époque. Enfin, voilà, ce genre de petites informations que le grand public ne peut pas découvrir sans avoir lu tout ce que nous, on a pu lire. Et c'est aussi le but, c'était que nous, on apporte notre expertise, entre guillemets expertise, parce que bah on a des bibliothèques conséquentes et qu'on a tout lu quoi. On est un petit peu trop monomaniaque.
Pour les auteurs que vous êtes, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire? Parce que vous mettez au même plan les personnages, les lieux, les accessoires, parce que ce sont des chapitres séparés dans l'ouvrage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette coordination?
C'est pas tellement la coordination qui a été difficile, parce que vraiment, on s'était réparti les articles au début, et dès le départ, on savait que finalement, le découpage thématique s'est fait vraiment tout au début. Il n'y a pas eu...
C'était assez logique.
C'était finalement très logique, et ça s'est fait sans problème. Moi, je sais qu'à la rédaction, j'ai eu beaucoup plus de mal sur des gros articles, entre guillemets, comme Elf ou Gobelin. Je sais que l'auteur de Gobelin a souffert aussi, parce qu'on se retrouve avec 5 ou 6 pages pour expliquer tout ce qu'il y a à dire sur les elfes. Et il y a 60 ans de textes de Tolkien sur les elfes. Et que nous, on a 6 pages pour résumer ça. Et là, c'était finalement sur des personnages très pointus, où on avait une page à écrire, et une page à écrire quand il y en a 10 en tout sur le personnage, c'est presque plus facile à faire que les très grosses entrées, où c'est facile de faire 6 pages sur les elfes. Mais de faire 6 pages sur les elfes en...
Informatif,
en donnant tous les éléments importants, et j'allais dire que les éléments importants, c'était pas si facile. Finalement, c'est presque les très grosses entrées qui, à mon avis, ont eu le plus de réécriture et de relecture.
Il a fallu arriver à moyenner les informations, en fait, c'est ça. C'est amener un maximum de choses importantes, intéressantes pour le lecteur, sans tomber dans le trop pointilleux.
Vous dites que ce travail d'écriture a été le plus compliqué. Est-ce que vous avez, par exemple, omis ou refusé de mettre des détails qui pourraient entacher la réputation de certains personnages?
Vous allez chercher loin.
Ah non, mais je pose la question.
Parce que
quand même, le Hobbit, toute cette partie, c'est quand même devenu dans le cinéma, dans beaucoup de gens, dans l'imaginaire, presque des héros. Maintenant, est-ce que... Une question que je peux vous poser maintenant, tout de suite, je vais vous penser un peu plus tard, mais est-ce que l'adaptation cinéma par rapport à l'ouvrage que je ne connais moi malheureusement pas,
j'ai obligé de l'adaptation.
Est-ce que c'est fidèle? Est-ce qu'il y a certains personnages qu'on a peut-être rendus plus sympathiques à l'écran parce que c'était...
Si vous me permettez, je vais vous répondre. Oui. En tant qu'illustrateur, si je cherche à être fidèle au livre, je ne peux pas me fier à quelque chose comme le film. Je cherche des détails particuliers qui font qu'une race ou un personnage est vraiment reconnaissable à quelque chose. Et je peux très bien comprendre le problème que Coralie a exposé il y a 2 minutes, parce qu'on a besoin en effet de l'essentiel, mais de tout le panel de ce qui peut passer à travers ces personnages. Donc... ça répond un peu à la question.
Mais voilà, pour parler uniquement, j'allais dire, du côté illustration par rapport au film, par exemple, dans les livres de Tolkien, Aragorn et Boromir sont en berbe. Et Legolas est vraisemblablement brun. Visuellement, il y a déjà...
Ça peut paraître des détails.
C'est du détail. Mais voilà.
Vous qui avez travaillé sur... Le titre, c'est quand même l'encyclopédie du Hobbit.
Oui, le livre.
Donc, l'encyclopédie du Hobbit. Est-ce que dans cette encyclopédie, vous avez cherché à rester fidèle point par point à l'œuvre de Tolkien?
Oui, complètement.
Quitte à peut-être nous surprendre.
C'est sûr que si vous ne connaissez du Hobbit que les films du Hobbit, vous allez être surpris.
Parce que
les films du Seigneur des Anneaux respectaient encore vaguement le scénario du Seigneur des Anneaux au livre. Les films du Hobbit respectent très 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 vaguement l'œuvre. Enfin, un point, c'est on se demande si les scénaristes ont lu le roman. Quoi. Il reste vraiment pas grand chose. Donc effectivement, nous on est parti du texte de Tolkien. Donc si vous ne connaissez que les films, ça risque de surprendre.
Même sans parler des films.
Connaissant juste le livre du Hobbit, j'ai appris plein de choses et je me suis servi de certains articles pour illustrer par exemple les elfes. C'était je n'imaginais pas qu'ils étaient aussi balèzes et qu'ils faisaient plus de 2 mètres de haut.
Oui, voilà,
c'est, voilà. C'est pour le respect de l'œuvre, j'y reviens, parce que comme tu dis, on ne sait pas que les elfes font 2 mètres de haut. Ouais. On a beaucoup de... Beaucoup. Sur le marché du livre, sur Tolkien, il y a énormément de choses.
Oui.
En France, il y a quelques encyclopédies du même type que celle-ci, qui ont été éditées par le passé ou qui sont rééditées maintenant avec l'engouement actuel. Et le problème majeur que nous on trouve, bon après pour le grand public je pense que c'est pas visible du premier abord, mais connaissant l'œuvre, c'est que quand on lit les articles, il y en a beaucoup, beaucoup d'auteurs font des suppositions qui sont pas étayées du tout chez Tolkien en fait. Des choses qu'ils prennent et qui disent voilà, c'est ainsi, c'est pas autrement, et alors que chez Tolkien il n'y a pas eu de. Il n'y a pas cette affirmation. Nous on voulait pas faire ça, on voulait juste le texte de Tolkien sous les yeux et transposer ça sous forme d'article, réunir tout ce qui concernait Bilbo, tout ce qui concernait Gandalf, mais sans interpréter, sans supposer quoi que ce soit, juste en laissant Tolkien dire ce qu'il avait à dire à travers notre plume, si j'ose dire.
Et est-ce que Tolkien a dit sur tout ce qu'il a écrit, parce que c'est quand même assez est-ce qu'il, je sais pas si vous comprenez ma question, vous dites que vous voulez prendre la parole de Tolkien, en tout cas dans l'ouvrage, pour
vous en faites son interprète.
Est-ce qu'il a parlé sur tout? Est-ce qu'il a laissé des traces sur tout?
Ah oui, alors, en fait ça dépend ce que vous appelez laisser des traces, mais par exemple pour le Hobbit, on a beaucoup travaillé avec The History of the Hobbit, donc publié par Radcliffe, qui publie les brouillons du Hobbit. Et il faut se dire que le livre de Radcliffe est plus épais que le nôtre, et que le livre du Hobbit, voilà ce que je disais, c'est que c'est vraiment pas épais. Comme... Donc oui, on a beaucoup plus de matériaux que juste le livre. Mais...
Pas sur le Hobbit en particulier, pas sur c'est vrai qu'il a été moins
sur prolixe. Sur le Hobbit en particulier, voilà. Mais il reste toujours des pans entiers où on arrive et on se pose des questions parce que il n'a pas écrit.
Ça rajoute quelque part une difficulté à votre travail.
C'est tout l'intérêt.
C'est aussi, voilà. Et puis des fois, on peut dire, enfin, on peut le dire, on ne sait pas sur ce personnage, on ne sait pas.
Et on joue un peu à Charles
de Gaulle. Il y a quelques personnages dans l'encyclopédie où on a dit les seules choses qu'on sait, voilà, point barre. Et
il y a parfois 2 lignes dans le...
Y a, voilà, et des fois...
On est capable d'inventer, mais on ne va pas le faire, parce que voilà. Ce n'est pas notre intérêt. On pourrait,
On pourrait.
Alors l'ouvrage, on en a parlé un petit peu avec vous, Xavier. J'espère que je ne vais pas me tromper, c'est Xavier. Oui. De l'illustration. Comment vous avez travaillé l'illustration de l'ouvrage? Est-ce que vous avez travaillé en même temps que l'écriture? Vous avez, je sais pas, eu besoin d'un certain temps pour mûrir les dessins, je ne sais pas.
Alors moi, je suis arrivé après les auteurs. Et donc, on m'a donné au départ seulement le sommaire avec... quelques extraits d'articles qui sont ensuite venus petit à petit. Il se trouve que lorsque j'ai rencontré l'éditeur, je me suis mis à lire Fairies de Tolkien et non pas le Hobbit directement. Donc j'étais, ça faisait longtemps que je l'avais et qu'il dormait sur une étagère.
Très bien. Bien que ça sert.
Donc je me suis retrouvé vraiment dans l'ambiance de Tolkien, voir la fin du livre, les inspirations. On est vraiment dans ce qu'il y a derrière toute l'architecture du Hobbit.
C'est vrai que Fairies,
ouais.
C'est tout le charme, tout le feeling.
Le titre, hein, Fairies, toute la Fairies, ouais. qui est derrière.
Donc voilà, après, les articles m'ont uniquement servi quand je les ai eus après coup. Pour préciser des points sur lesquels j'avais des doutes et que je n'avais pas le temps de chercher, comme les descriptions des elfes par exemple, mais
éventuellement sinon, par dialogue avec par mail par
avec
Damien.
Ouais. Et puis mal. Bon, donc j'ai relu le Hobbit aussi de Tolkien pendant que je commençais mes dessins et tout ce que je visualisais par rapport aux articles que j'avais à faire était mis sur papier. Soit laisser de côté, soit développer tout de suite. Donc, c'est sa petite cuisine.
de son côté, en tout cas.
Oui, voilà, il y avait un c'était un peu compartimenté là.
On a parlé un petit peu du Seigneur des Anneaux. Là, vous parlez de Féeris. Si je dis pas de bêtises, que je n'ai pas lu, j'avoue, je suis mauvais, je n'ai pas lu. Est-ce que pour l'encyclopédie du Hobbit, comme ça, vous avez fait des recherches aussi sur les autres ouvrages, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous un peu liés les uns aux autres. Vous parlez de Féeris pour peut-être l'atmosphère, peut-être les personnages. Est-ce que certains personnages, ce qu'on peut voir dans le Hobbit au cinéma, mais bon, c'est une mauvaise adaptation du bouquin. Donc,
Le Seigneur des Anneaux aide énormément à préciser l'univers du Hobbit.
Effectivement, tout est lié ou presque. Faerie dans une moindre mesure, parce que c'est pas aussi directement lié à la Terre du Milieu que les autres textes, mais bon, comme tu disais Xavier, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont directement liés l'un à l'autre, donc on pouvait pas faire l'impasse sur le Seigneur des Anneaux. Puis d'ailleurs il y a des articles qui font directement référence à certains personnages qui n'apparaissent pas forcément dans le Hobbit mais qui sont liés directement au Seigneur des Anneaux et donc à l'histoire du Hobbit indirectement. Et à côté de ça, il y a tous les textes que le grand public connaît un peu moins, mais connaît quand même. Il y a le Silmarillion et les contes et légendes inachevées, qui sont nos premiers livres après Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit pour écrire l'encyclopédie. Alors on a été chercher, on a été piocher, on n'a pas tout relu parce qu'on savait, à force de les connaître, les textes, on sait où piocher en fait. Donc on savait que dans Silmarillion, il y avait de telle page à telle page, grosso modo, des informations qui nous seraient utiles pour tel ou tel personnage, tel ou tel lieu, et de façon identique, les contes et légendes inachevées. Et puis après, on est allé chercher des petites infos croustillantes dans ce qu'on appelle, nous, entre nous, les hommes, qui sont The History of Middle-earth.
Tout ce que je ne connais pas.
C'est 12 tomes qui reprennent intégralement l'histoire de l'écriture du Silmarillion et du Seigneur des Anneaux tout au long de la vie de Tolkien. Donc depuis les premières années, en 1910-1915, où il a commencé à inventer sa mythologie jusqu'à sa mort, grosso modo. Et donc, en fait, il revient tout le temps à cette mythologie tout au long de sa vie, et il y a tout au long de ses écrits des petits détails intéressants à piocher. Alors ça fait 12 tomes, ils font je pense 300-400 pages chacun.
Voilà.
Donc on n'a pas pu tout dire, on a ciblé les, comme on disait tout à l'heure, les infos les plus intéressantes, les plus importantes, et celles que je pense le lecteur va pouvoir se rappeler et pouvoir glisser dans une conversation, quoi.
Par exemple sur les elfes, moi je sais que j'ai introduit une partie sur la couleur des cheveux des elfes qui pour moi aurait pu paraître du détail, mais en fait j'ai demandé à des amis qui n'avaient pas lu l'œuvre de Tolkien, ils m'ont dit visuellement ça ressemble à quoi un elfe, est-ce qu'ils ont les cheveux violets. Je me suis dit je vais peut-être préciser quelles sont les couleurs des cheveux,
ça peut paraître idiot,
surtout qu'après il y a eu toute un univers visuel lié indirectement au film qui font des elfes blonds, et il faut dire que les elfes blonds, oui, il y a des elfes blonds en Terre du Milieu, c'est le peuple extrêmement minoritaire. La majorité des elfes n'est pas blonde.
Ils sont alors ?
Ils sont bruns en majorité. Voilà. Et voilà,
on a essayé de prendre ici et là ce qu'était l'image, en fait, une image globale de ce qu'est un elfe, de ce qu'est un hobbit, de ce que. Voilà.
Vous venez de rappeler que Tolkien a commencé en 1910, pour venir en 1970 environ, 60 ans environ. Il y a beaucoup d'environ dans les années, bref.
Si on se met à préciser, voilà.
Oui, environ une soixantaine d'années.
Voilà, une soixantaine d'années pour lui, pour la conception, pour la création. Est-ce que durant ces 60 ans, il y a des personnages qui ont évolué? Et est-ce que vous les avez découverts?
Ah oui, il y a des personnages qui ont complètement changé. Vas-y, peut-être.
Effectivement, il y a des personnages qui ont évolué tout maintenant. Comme ça.
Elrond est peut-être un personnage qui a une entrée dans le.
C'est un bon exemple, effectivement. C'est un personnage qui est apparu dans les années 20, donc années 20, années 30. Donc l'histoire d'Elrond, rapidement parlé, c'est un elfe qui est né au premier âge. Donc le Hobbit se passe au troisième âge. Donc déjà, pour vous donner une idée, il y a 5000 ans d'écart. Donc c'est quand même un vieil elfe. Et à l'origine, quand Tolkien l'invente, c'est le fils d'un couple entre un humain et un elfe. Ce personnage-là, il apparaît comme ça, mais il n'a pas franchement d'importance à l'origine. Et puis, fin des années 30, donc en 37, quand 36-37, quand il commence à écrire le Hobbit, il place un elfe comme ça en plein milieu du récit pour décoder la carte du Hobbit, et il l'appelle Elrond. Alors, est-ce que c'était le même? Est-ce que c'est pas le même?
Ne vous posez pas la question.
Voilà, c'est incapable.
Les gens ont découvert Tolkien avec le Hobbit en 1937. Et Elrond, c'était un elfe, un demi-elfe qui était là. Et en fait, oui, c'est-à-dire que Tolkien a fait évoluer ses personnages qu'il a intégrés dans son passé, et il les a fait évoluer. Alors il les a mis. Alors dans le Hobbit, on a Elrond. Dans Seigneur des Anneaux, on a un autre elfe, par exemple, qui s'appelle Glorfindel, qui est aussi un elfe qu'il avait introduit par ailleurs.
Qui vient des contes perdus de 1917. Alors, ouais.
Fondamentalement, eux n'ont pas forcément évolué beaucoup. C'est-à-dire qu'ils restent, l'image reste assez identique tout au long. Mais il y a des personnages, qu'ont changé.
La première version d'Aragorn.
Aragorn, dans les premiers brouillons du Seigneur des Anneaux, c'était un hobbit. Qui ne s'appelait pas Aragorn d'ailleurs, qui s'appelait Trotter. En anglais, et qui était le cousin de Bilbo, et au fur et à mesure qu'il écrivait son Seigneur des Anneaux, il s'est rendu compte que finalement le charisme du personnage ne pouvait pas en faire un hobbit, quoi. Ça devait être un humain, finalement devait être un humain, un roi du Gondor, quoi. Donc, en fait, il évolue, quoi. Tolkien évolue lui-même sur ses personnages, il laisse.
Comment fait l'illustrateur pour justement quand il doit produire comme ça un dessin d'un héros, il prend quelle version? La version la plus récente ou la première version?
Il prend la version sur laquelle il est en train de travailler.
C'est la vie, hein.
Sauf que pour le Hobbit, on manque assez de précision pour aller se référer au Seigneur des Anneaux. Donc il y a beaucoup plus de précision dans le Seigneur des Anneaux sur les Hobbits. Et pour illustrer les Hobbits dans l'histoire du Hobbit, on est déjà allé chercher dans le Seigneur des Anneaux.
Bah après, l'illustrateur, il se base aussi sur ce qui est canon, entre guillemets canon. C'est ce qui est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que, et nous aussi un peu d'ailleurs, c'est-à-dire que le Hobbit, le Seigneur des Anneaux sont des choses publiées. Du vivant de Tolkien, on considère qu'ils ont, validés par l'auteur lui-même. Ce qui apparaît dans les brouillons et autres, c'est des choses qui ont été rejetées à un moment ou à un autre, ou qui sont en perpétuel mouvement dans toute la vie de Tolkien. Donc, ils peuvent nous apporter, ces informations peuvent nous apporter un éclairage sur ce qu'est le personnage final, comment il a évolué, pourquoi il en est arrivé à cet endroit-là. Mais on peut pas aller plus loin, on peut pas dire tel personnage est mieux dans telle version antérieure, donc on va en faire notre... Non, on n'a pas réfléchi comme ça. Nous, on sait qu'on a tel personnage dans le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, qui est comme ça. On va apporter au lecteur nos informations sur son évolution, parce que c'est toujours intéressant de voir dans l'esprit de l'auteur comment il est arrivé ici. Mais on va pas en faire, on peut pas en faire autre chose, quoi.
Oui, voilà, on peut pas décider qu'on préfère Trotter à Aragorn.
On peut pas faire comme au cinéma.
Comme au cinéma.
Coralie, tout à l'heure, vous parliez du chapitre sur les inspirations.
Oui.
L'œuvre de Tolkien, on l'a dit tout à l'heure, c'est environ 60 ans. En 60 ans, il y a eu beaucoup, historiquement, il y a eu beaucoup d'éléments, l'histoire a été riche durant ces 60 ans. Est-ce que Tolkien s'est un peu inspiré de ce qui se passait autour de lui, cette histoire pour le Seigneur des Anneaux, en tout cas pour le Hobbit, et il s'est servi
pour le Hobbit, pas tellement.
Au niveau historique, je sais pas.
C'est difficile parce que...
Il y a des personnages Avengers qui ont été créés pour...
Ouais. Oui, non,
en 40,
pas, pas mais
est-ce qu'il s'est servi
là,
un
là,
petit
pas
peu
du tout. Il n'y a pas de réponse directe. Mm-hmm. Après qu'il y ait eu des influences indirectes, ben forcément, parce que... Enfin, forcément. De fait, quand on vit dans un certain contexte, ça occupe une part mentale. Mais il n'y a pas eu du tout de réponse directe. Il n'y a pas de volonté d'allégorie dans l'œuvre de Tolkien. Donc
pas sur l'histoire moderne.
Pas sur l'histoire contemporaine, en tout cas. Ça, c'est pas sur l'histoire. Voilà. Mmh. C'est le Mordor, c'est pas l'Allemagne nazie.
Pour donner une image qui revient souvent, c'est que voilà, la Seconde Guerre mondiale serait le Seigneur des Anneaux, c'est une image de la Seconde Guerre mondiale.
Et je pense que si c'était le cas, dans l'éventualité où on pourrait y voir quelque chose, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas quelque chose
c'est pas du tout quelque chose de réfléchi. En tout cas, ça n'a jamais été prévu comme ça. Et ce qu'il, enfin, Tolkien détestait qu'on lui pose la question par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et lui disait que bah, la Seconde Guerre mondiale n'était pas la première guerre que l'univers avait connue. Et lui, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il est revenu de la Première Guerre mondiale, les trois quarts de ses amis étaient morts. Donc ça, forcément, il y a les premiers textes des contes perdus ont été écrits dans les tranchées de la Somme. Forcément, ça peut pas ne pas laisser de marque dans l'œuvre. Mais il n'y a pas de volonté de répondre au contexte actuel. Il y a dans les volontés.
Après, dans l'histoire, si on veut vraiment chercher, par exemple dans le Hobbit ou dans Seigneur des Anneaux sur la partie sur le Hobbit, sur les Hobbits, il a identifié ses hobbits à l'Angleterre qu'il connaissait, donc l'Angleterre rurale victorienne, dans laquelle lui-même a évolué durant son enfance et une partie de sa jeunesse. Donc effectivement, on va retrouver des choses qui ne sont pas forcément... Un détail, par exemple, les hobbits ont des horloges, alors que dans notre tête, on imagine la Terre du Milieu comme un monde médiéval et les horloges, ça colle pas forcément. Mais donc, par exemple, effectivement, les hobbits sont basés sur cette Angleterre que lui a connue, donc il y a incorporé des choses de son vécu.
Il y avait quand même des horloges.
Oui, non mais.
Oui, mais enfin, là, des pendules dans l'entrée, voilà, avec des parapluies, et voilà.
Des choses vraiment modernes pour. Qui sont.
Et à côté de ça, il y a le Rohan qui a l'air sans tout droit sorti du 8e voilà. Siècle anglais, quoi.
Finalement. Même dans le film, on le voit quand même un petit peu.
Voilà, c'est
oui. C'est peut-être un des meilleurs passages du film, ouais. Est-ce qu'ils ont bien pris les bonnes sources d'inspiration
c'est vrai
pour ce passage?
Pour les inspirations historiques, c'est vraiment historique pour le coup, c'est. L'Europe médiévale, toute cette mythologie, on va citer des textes comme Beowulf, comme les sagas islandaises, qui lui sont des choses qu'il connaissait par cœur, puisqu'il travaillait dedans, et qui l'ont vraiment inspiré pour le
ça,
coup.
Oui,
mais c'est pas des choses visuellement qu'on ressent, quoi. Comme, on sait qu'il y a quelque chose, on sait que c'est. Que quand on lit Seigneur des Anneaux, on est dans cette
ambiance-là.
Dans cette ambiance médiévale, exactement. Mais on le touche pas du doigt, quoi. On le ressent.
Les buts, un ressenti.
Voilà, c'est oui. Ça. C'est de l'ordre du ressenti. Il y a pas mieux, quoi.
On a beaucoup parlé de différentes œuvres, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, Fairies. Hein. Pour nos auditeurs, que des choses que je n'ai pas lues, je tiens à préciser. Vraiment, donc je suis très mauvais sur ce coup-là. Pour nos auditeurs, quel livre ou quel titre conseilleriez-vous ou qui est désespérant pour si un auditeur n'a pas encore lu, un de nos jeunes auditeurs, quel serait le premier que vous conseilleriez?
L'encyclopédie du Hobbit.
Bien sûr, ça va être soi.
Justement, c'est moi l'intérêt que je vois dans ce livre, c'est que pour les gens qui n'aiment pas lire ou qui n'osent pas approcher les livres de Tolkien, ça amène...
C'est une bonne introduction.
Ouais, c'est une bonne introduction, je pense.
On l'a fait pour accompagner le récit aussi.
On l'a fait pour accompagner le récit. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que Le Hobbit est un livre pour enfants. Donc, j'allais dire, les lecteurs adolescents ou adultes, ils sont pas forcément...
Justement, moi, j'ai lu Le Hobbit pour la deuxième fois lorsque j'ai approché ce projet. Je l'ai trouvé exceptionnellement sombre. donc pour enfants entre guillemets.
Il y a un double niveau lecture. En fait, c'est à la fois l'histoire est très sombre et à la fois quand on se rend compte, il y a beaucoup de tics oraux qui sont vraiment marqués pour que le livre soit lu à l'oral à des enfants. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chansons, par exemple, au passage les plus sombres. On arrive dans une forêt ténébreuse avec des araignées géantes qui risquent de tuer les personnages. Et là, il y a une chanson. Et c'est à la fois dans l'ambiance, l'histoire est vraiment sombre, et à la fois si on le raconte à des enfants, il y a un moyen pour le narrateur de dédramatiser et que ça passe. Il y a moyen vraiment de faire passer des choses très sombres à des enfants par ouais. ce style de rédaction. Par contre, évidemment, quand on a 14 ou 15 ans, le Hobbit, il faut se dire que ça ne vise pas cette tranche là forcément.
Je pense que mon point de vue a été influencé par le fait de devoir mettre en image.
Oui, mais voilà, quand on met en image, on se rend compte que ce monde est terrifiant, mais dans la façon d'écrire, il y a une façon de dédramatiser cette...
Après, je suis quand même hyper étonné parce que vous dites là franchement.
Heureusement,
je suis assis.
Il faut lire le livre.
Parce que pour moi, Tolkien s'adressait quand même à des jeunes adultes. Et là, vous me dites.
C'est un sort.
Vous me dites que vraiment c'est pour les enfants.
Mais c'est quelque chose qui est souvent mis sur la table. Il faut tordre le cou à cette idée que Tolkien est soit pour les jeunes adultes, soit pour les enfants. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'on ne sait jamais trop où le placer. Alors, les éditeurs le placent souvent sur les étagères de fantasy et pas forcément en littérature. Enfin, il y a de tout chez Tolkien. C'est-à-dire que vous posez la question de quoi lire. Ça dépend en fait du type de lecteur que vous êtes et du type de quel âge vous avez. Typiquement, si vous êtes un gamin de 6-8 ans, vous pouvez lire Le Hobbit, vous pouvez lire un autre texte qui s'appelle Rover Random. Qui sont des textes relativement simples à lire, mais on va pas aller vous conseiller de lire du Seigneur des Anneaux, parce qu'effectivement, tout de suite, le Seigneur des Anneaux, c'est compliqué. Maintenant, il y a des gosses de 8 ans qui l'ont lu et qui ont adoré, mais c'est pas la majorité. Effectivement, ça se catalogue un peu plus comme ça. Et c'est vrai que le Seigneur des Anneaux est plus sombre, donc c'est plus pour des jeunes adultes. Après, si vous avez lu déjà Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, il y a d'autres choses.
Une question quand même quand je lis Le Hobbit, c'est est-ce que Tolkien ne considérait pas les enfants comme des jeunes adultes, justement?
Ça sous-tend. On arrive dans des concepts sur lesquels lui-même a écrit, c'est-à-dire tu as lu Faerie, donc tu as dû lire Le Conte de Fées, le texte. Sur l'un de, c'est l'une de ses conférences qu'il a écrit, qu'il a donné, où justement il explique ça, c'est que les enfants, faut pas les prendre comme des enfants, ce sont des adultes en puissance, et faut pas leur faire des textes lissés de toute cette noirceur, de tout ce monde qui va les attendre quand ils seront adultes, parce que justement ça les aide pas, et que c'est ce principe-là en fait qu'il a lui-même émis dans ses textes. Il a écrit pour les enfants, mais tout en laissant la porte ouverte aux adultes qui sont. Et d'ailleurs, il le dit après dans ses lettres, quand il a écrit Seigneur des Anneaux, il l'a écrit Seigneur des Anneaux pour les enfants qui avaient lu Le Hobbit 15 ans plus tôt. Donc en fait, ils ont évolué avec le texte, avec le temps qu'il lui a fallu pour écrire. Et il ne faut pas cataloguer en fait son style par tranche d'âge.
C'est pas la bonne idée.
Mais quand même.
Mais sinon.
A-t-on retrouvé tous les textes qu'il a écrit Tolkien, ou est-ce qu'il y a encore des inédits? Parce qu'on parle quand même pas mal de textes.
C'est
pas
sûr. C'est très pertinent parce que. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a appris qu'il allait y avoir un nouvel inédit qui allait paraître
le mois de mai. Le 22 mai.
Mais alors c'est bon, pour faire court l'histoire des papiers de Tolkien, donc il est mort en 73, et depuis 73 c'est son fils Christopher Tolkien qui se charge de publier tous ses écrits, c'est-à-dire tous ceux qu'il n'a pas pu publier de son vivant. Alors pendant la période, en 77 il a d'abord publié le Silmarillion, qui est le texte qui... une sorte de bible en fait, on va dire ça vulgairement, qui raconte depuis la création du monde jusqu'au
Seigneur des Anneaux.
Voilà. Merci Coralie.
Wow, et ça fait du, ça fait des pages, hein.
Bah pas tant que ça. Comme ça. C'est la taille du texte est entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, mais ça se lit plus difficilement.
C'est extrêmement voilà. dense.
Il y a eu ça. Il y a eu une période. Ensuite, il y a eu en 80 les contes et légendes inachevées dont on a parlé tout à l'heure. Puis ces fameux homes dont on parle et qui sont actuellement en train d'être d'être traduits en français. Donc il y a les 5 premiers qui sont traduits en français. Merci. Tout ça concerne sa terre du milieu, donc son univers mythologique. Il y a eu en 2007 un extrait qui s'appelle Les Enfants de Hurin, un extrait du Silmarillion qui a été publié tout seul. Et à partir de là, on n'a plus de texte sur la terre du milieu, parce que Christopher Tolkien a tout publié ou presque. Et depuis cette date-là, on a d'autres textes qui sont des textes de... Comment on peut appeler ça ? Des textes que Tolkien a réécrits, des textes médiévaux. Donc on a une légende nordique en 2009 qui s'appelle la légende de Sigurd. On a entendu parler ou pas de la légende de Sigurd, dans la légende scandinave de Sigurd qui tue un dragon. C'est un texte qu'il a réécrit. Plus récemment, donc l'an dernier, il y a eu La Chute d'Arthur, donc qui est une série de textes... de chants en fait sur le roi Arthur et comment on arrive à la mort du roi Arthur. Et donc je vous disais, il y a 3 à 4 jours on a appris qu'il allait avoir une nouvelle parution, donc d'un texte qui est le Beowulf. Donc là on est directement impliqué parce que le Hobbit est a quand même une grosse part d'inspiration du Hobbit, notamment le dragon Smaug qui est directement tiré de Beowulf, et donc qui est une traduction que Tolkien avait faite de ce texte médiéval en vieil anglais. Et là, bon, bah, on arrive, je pense, à la fin, parce que ça fait... On arrive, et je dis on arrive, mais ça, c'est les choses encore qui sont les plus grands publics.
C'est-à-dire, on arrive sur tout ce qui est écrit, roman, lisible. On a beaucoup de textes linguistiques, continue à être publié, mais alors là c'est le
pendant de ce que... En fait, voilà, donc on n'a pas abordé ce passage-là, mais Tolkien est avant tout linguiste, philologue, et l'étude des langues, c'est toute sa vie. Et d'ailleurs, on le sent dans le Hobbit, on en a un peu parlé, nous, dans l'encyclopédie, il a inventé énormément de langues. Je suis pas spécialiste, hein, donc honnêtement, je pourrais pas vous en parler beaucoup, mais... il a écrit énormément de pages sur ces langues, des grammaires, des dictionnaires, des choses qui sont, pour le péon, c'est pas lisible. Même pour nous, si on n'est pas vraiment... Moi je suis incapable de les lire.
J'ai beaucoup appris sur la linguistique en lisant Tolkien.
Voilà, donc c'est des choses qui sont éditées à très peu d'exemplaires pour donc bon, on n'en parle pas au grand public parce que finalement on sait qu'ils les achèteront pas et puis ils comprennent, enfin c'est pas qu'ils comprendront pas.
Trop digeste.
Voilà, c'est pas trop digeste. C'est exactement
vraiment,
ça.
C'est vraiment c'est lourd, spécialiste c'est pas possible, pour des philologues, quoi. Il faut vraiment avoir la culture philologique.
C'est intéressant, mais pour les gens qui veulent vraiment.
C'est pas du tout accessible.
Alors dans le peu que je connais, moi je suis pas, je vous disais tout à l'heure, pas aussi spécialiste que vous trois. Moi, je trouve quand même que c'est super moderne. Comment vous expliquez cette modernité des... Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est super moderne. Vous me faites des grands yeux, Coralie, heureusement que les auditeurs vous voient pas.
Je suis assez d'accord.
Je trouve que c'est super moderne. C'est un peu contradictoire. C'est un peu des légendes un peu médiévales, comme vous disiez tout à l'heure. Des dragons, des épées et tout.
Je suis assez d'accord.
Moi, je trouve ça drôle parce qu'en fait, j'ai plusieurs fois rencontré des gens qui viennent nous voir pour parler du Hobbit, par exemple. Et quand on leur dit que le Hobbit, ça a été écrit en 37 et que Tolkien, il est mort depuis 73, ils nous regardent avec des yeux ronds parce que pour eux, Tolkien, c'est tellement vivace. Forcément, il y a les films qui ont donné aussi ce
côté un peu.
Cette modernité. Mais je pense aussi que le texte est... il transcende un peu les âges.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en pensant que ça a été écrit en 1990 et en fait non, ça date
mais 1937. Je pense aussi que ça doit aussi beaucoup à ces inspirations dont on parlait, parce que finalement quand on lit un texte, même une saga islandaise ou Beowulf, hein, pour ceux qui ont pu le lire, c'est des choses, finalement ça a beau être médiéval, ça a beau avoir quelques centaines d'années, ça se lit bien, c'est comme du Shakespeare finalement quand on lit du Shakespeare.
En fait, les œuvres très datées dans un contexte historique vieillissent moins bien, parce que quand on n'a plus les clés de ce contexte historique, on passe à côté. Quelque chose qui se passe dans le Lyon des années 30, par exemple, si on ne connaît pas les Canuts, maintenant ça ne fait plus sens. Mmh. Alors que quelque chose qui puise à des textes médiévaux qui ont survécu, parce qu'ils puisent dans des...
On les a vus,
Beowulf, on connaît forcément, même si on ne connaît pas Beowulf, on connaît forcément des œuvres qui ont été inspirées de Beowulf. Même si on ne sait pas que ça vient de là, on connaît cette ambiance-là, on le connaît parce qu'il y a eu tellement d'auteurs, il y a eu tellement d'illustrateurs, il y a eu tellement d'artistes pour s'en inspirer, que quelque part, même si nous, on n'a jamais été confrontés à l'œuvre d'origine, c'est quelque chose qu'on connaît et qui fait partie de notre culture.
Je pense que ça doit être Vincent Ferré qui avait approché un peu ce que tu dis. C'est Tolkien est comme ça, en fait. C'est qu'on a beau pas forcément le connaître, mais... Il comble une lacune qu'on a en nous, si vous voulez, un peu. C'est, on cherche un peu quelque chose comme ça quand on le lit. C'est-à-dire, on découvre que plus on le lit, et plus ça comble quelque chose en nous, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que ça, c'est moderne, mais en même temps, ça ne l'est pas, parce que ça a beau faire une cinquantaine, soixantaine d'années, ça reste toujours d'actualité, en fait. C'est des thèmes abordés qui sont, universels et... intemporel peut-être, je sais pas, mais je pense que ça doit être ça, quelque chose comme ça, quoi. On n'a pas la réponse, hein, de toute façon.
Après, chacun de son interprétation. Alors je rappelle à nos auditeurs que nous parlions de l'encyclopédie du Hobbit. Pour tout savoir du Hobbit, Xavier me disait que nous disait tout à l'heure que pour tous nos auditeurs qui n'ont pas encore lu du Tolkien, un premier livre à lire, c'est peut-être ça, l'encyclopédie du Hobbit. Bonne introduction, complète introduction. Donc c'est au Pré au Clair et c'est l'encyclopédie du Hobbit. En vous remerciant, Coralie, autour de votre gentillesse, Vivien Stoker, je me suis pas bourré, merci beaucoup. Xavier Jean-Chèze, merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, si vous deviez être un personnage, ça serait lequel? Il se décompose tous.
C'est la question vraiment pas facile. Moi ce serait pas du tout. Si je devais être un personnage dans l'œuvre de Tolkien, je pense que je serais un elfe pour Valinor qui n'a jamais quitté Valinor. Mais vraiment,
on serait pas forcément des personnages connus.
On serait pas forcément des personnages connus. Je pense que je serais un elfe de Valinor qui a vu la lumière des arbres et qui n'a jamais quitté Valinor. Ça me conviendrait très bien. Mais maintenant, vous allez devoir lire le Silmarillion pour comprendre ce que je viens de dire. Voilà.
Moi, on m'a déjà posé la question, en fait, donc j'ai la réponse toute prête. C'est un humain qui s'appelle Sirion, qu'on découvre dans les contes et légendes inachevés, qui est le surintendant du Gondor à l'époque où il n'y avait plus de roi et il gouvernait le Gondor. Et en fait, c'est quelqu'un qui représente l'honneur dans tout ce qu'on peut avoir plus noble et qui me plaît beaucoup. Après, voilà, j'ai pas de raison particulière autre que celle-ci. Voilà.
Moi, j'ai pas de préférence, je suis un peu tous les personnages à la fois, selon.
C'est ta fibre artistique, ça.
Voilà, selon ce que j'ai à illustrer, selon ce qui m'inspire, selon tout le ressenti, tous les archétypes que Tolkien nous envoie dans la tête.
Et vous?
Je ne connais pas suffisamment pour me prononcer. Ce qui est vrai. Mais je suis assez tenté par les elfes. Ils vivent un peu longtemps, pourquoi pas.
Ouais.
Un peu tenté par les elfes.
Il y a une forme de mélancolie qui vient après. Vivre longtemps, c'est pas forcément toujours.
Bon, il faut que je réfléchisse. Joker.
J'aime bien les rôdeurs, quels qu'ils soient.
Les rôdeurs.
Ouais. Donc, l'encyclopédie du Hobbit qui vient de paraître aux éditions Le Pré au Clair, est-ce qu'on peut espérer qu'après le Hobbit vous vous attaquiez au Seigneur des Anneaux, et après au Seigneur des Anneaux peut-être au Féris, c'est toi que je prononce bien, est-ce qu'on peut penser?
L'avenir vous le dira, je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion, c'est des gros morceaux. Faut être honnête, on n'est pas rendu, quoi. Donc pour l'instant, ça va dépendre aussi de notre éditeur, on verra bien, et puis on espère, pourquoi pas.
pourquoi pas.
Bon, ben écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles. Et vraiment, je conseille à tous nos auditeurs d'aller se procurer l'encyclopédie du Hobbit. Je remercie Laetitia Matusik qui m'a permis de vous rencontrer et de réaliser cette interview. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, je ne parle pas l'elfe. Donc voilà, je vous dirai à très vite sur Any Music et voilà, à très vite.
Merci.
Bonsoir.